Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV.
C'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est 9h38 sur France Inter et c'est l'instant M qui démarre en avance.
Vous êtes en direct, allez-y.
Chaque année, Reporters sans frontières publie son bilan des journalistes tués, emprisonnés ou retenus en otage dans le monde. Radiographie des tensions géopolitiques de la planète, radiographie aussi de la façon dont la profession s'adapte aux dangers. On meurt moins sur le terrain, oui, mais on y va moins. Et croyez-le, si vous le voulez, on risque autant sa vie à enquêter dans un pays en guerre que dans un pays en paix.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Christophe Deloire.
Bonjour Sonia De Villers.
Bonjour Christophe Deloire. Voilà, voilà, ça c'était du bonjour. Secrétaire général de Reporters sans frontières. On va venir évidemment dans un instant à ce bilan annuel qui a été dévoilé ce matin. Un mot d'abord parce que hier soir c'était le premier JT français de la chaîne RT, Russia Today, chaîne d'infos financée par le Kremlin. À voir donc désormais sur le canal 359 de la Freebox et sur internet. À l'antenne, vous le savez, on vous en avait parlé, Stéphanie de Muru, visage de BFM TV, donc bien connu des téléspectateurs français. Alors au menu, un portrait, comment dire, très positif, on va dire, de Bachar el-Assad, hein, qui contrôle sa région et qui garde la main. Et en invité, vedette du journal, le cinéaste américain Oliver Stone, extrait de l'interview.
Cela me fait peur dans la mesure où les États-Unis pourraient perdre leur self-control. Et cette idée, ce sentiment de panique, cette crise d'angoisse qui dit que la Russie est responsable de tout, c'est insensé.
Vous l'aurez compris, tout est dans le choix de l'invité, Oliver Stone, auteur de l'édifiante série documentaire diffusée en France sur France 3, Conversation avec Poutine, entreprise de réhabilitation en tout point du président russe, démolissant les fondements de la méfiance et des critiques que les Américains, voire les Occidentaux en général, peuvent porter à Poutine. Christophe Deloire, une réaction ?
Le problème, c'est pas qu'il y ait en France une chaîne avec... une vue, une conception culturelle russe, ça, tout ce qui élargit le pluralisme est souhaitable. Mais RT participe d'une guerre de l'information russe. Le ministre de la Défense, à Moscou, a dit en 2015 que les médias étaient des armes. Russia Today, au niveau supérieur, c'est-à-dire la maison mère, a été classée entreprise stratégique, comme Gazprom, la société gazière. C'est une société qui participe d'une... volonté de, parfois de déstabilisation de l'Europe à travers ses informations, à travers sa ligne éditoriale, à travers un manque d'indépendance. Au fond, si on regarde bien, le rédacteur en chef, finalement, c'est Vladimir Poutine. Et Reporters sans frontières, qui n'a pas vocation à, évidemment, à bouter RT hors de France,
non.
Qui n'a pas vocation à demander que RT ne soit pas financé sur fonds publics, il faut être cohérent, et nous le sommes, mais à demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel français, par lettre, que des garanties soient apportées pour l'indépendance éditoriale. Il y a deux ans, on avait fait ça pour Vincent Bolloré, l'homme d'affaires français, lorsqu'il avait mis la main et censuré certains contenus sur Canal+. La moindre des choses, c'est qu'on le fasse aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Il n'y a pas de raison de faire une distinction entre Vincent Bolloré et Vladimir Poutine. Et si on regarde ce qui se passe en Russie aujourd'hui, la Russie, c'est un pays qui est 148e au classement mondial de la liberté de la presse.
C'est un
pays
dans lequel... C'est-à-dire très très bas dans votre classement.
C'est-à-dire extrêmement bas, sur 180 pays.
Voilà.
C'est un pays dans lequel les journalistes sont placés en détention. On est à un niveau très élevé de journalistes en détention en Russie aujourd'hui, dans lequel il y a très peu de médias qui sont capables de conserver une indépendance, tellement les journalistes sont persécutés par le pouvoir. Il y a eu il y a quelques jours une conférence de presse avec 1000 journalistes, une conférence de presse de plus de 3h30 de Vladimir Poutine. Il n'y a pas eu de question digne de ce nom. C'est un pays où l'information est sous contrôle, et Vladimir Poutine essaie d'exporter ce modèle.
Voilà. Surtout, ce qui est très intéressant, c'est que pour RT, pluralisme, il y a. C'est-à-dire que le pluralisme pour RT, ça signifie à chaque pays sa télévision et son organe médiatique. Ça ne signifie pas qu'au sein du pays, il puisse y avoir une forme de pluralisme avec une forme de contradiction, Christophe Deloire ?
Moi, j'ai rencontré récemment, à ma demande, la présidente et directrice de l'information. Elle cumule les deux fonctions, Zenia Federovna de RT. Et je lui ai dit que nous défendions que notre mandat, le mandat de Reporters sans frontières, c'est défendre la liberté, l'indépendance et le pluralisme du journalisme, quelle que soit ligne éditoriale, et en ayant une vision vraiment extrêmement large et la plus large possible du pluralisme. Elle m'a dit, vous y croyez ? D'un air narquois.
Vraiment ?
En fait, l'idée, c'est la conception du pluralisme, c'est qu'au fond, des pouvoirs ont leurs propres médias et que le pluralisme, c'est la confrontation de ces points de vue de médias liés au pouvoir. Mais ça, c'est pas satisfaisant. Le pluralisme, un pluralisme digne de ce nom, c'est un pluralisme avec des visions du monde très différentes. Et toute restriction des visions du monde est dommageable, mais avec des journalistes qui font indépendamment leur métier, qui peuvent le faire honnêtement et derrière lesquels il n'y a pas d'agenda politique.
Alors, évidemment, on va continuer avec Christophe Deloire à revenir sur un état des lieux de la liberté de la presse et de ce qui s'ensuit aujourd'hui dans le monde en 2017, avec les risques que prennent les journalistes dans chaque pays où ils enquêtent. Je vous propose néanmoins un petit détour parce qu'on est mardi. Salut Romain.
Bonjour Sonia.
Tout en muscles et en humour, c'est notre rendez-vous série du mardi. Romain Nigita, vous avez rencontré Jean-Claude Van Damme, oui oui, en chair et en os. Pourquoi donc ? Parce que le kickboxer belge joue désormais dans sa propre série télé. Ça s'appelle Jean-Claude Van Johnson. La saison 1 est visible sur Amazon Prime depuis vendredi dernier.
My name is Jean-Claude Van Damme. I used to be super famous. Perhaps you remember my first starring role in Bloodsport. It is on television all of the time.
Voilà, peut-être vous vous rappelez mon premier rôle, c'était dans Bloodsport et c'était déjà de la télévision. C'était quoi Bloodsport ?
C'était son premier film de cinéma, son premier grand succès en 1988. Et c'est un peu le modèle de tous ses films puisqu'il jouait un athlète dans un tournoi d'arts martiaux qu'il finit évidemment par gagner malgré tous les obstacles.
D'accord, et la nouvelle série alors elle est comment ?
Elle est très surprenante, elle est très drôle, elle est même parfois émouvante. Puisque Van Damme, il joue à fond la carte de l'autodérision, il joue son propre rôle. Une star de film d'action dont la carrière patine, on le voit déprimé, aller chercher le journal devant chez lui en peignoir, façon Tony Soprano, sur fond de Jacques Brel. Mais on découvre aussi qu'il a une double vie. Lorsqu'il tourne un film dans un pays étranger, c'est en fait parce qu'il est un agent secret qui doit accomplir des missions. Et comme il nous l'expliquait lui-même, c'est lui qui a eu l'idée de ce concept il y a plusieurs années.
Pour être très honnête, ma carrière cinématographique n'allait pas trop bien. Et je me suis dit que la TV, c'était le futur. Once again. C'est ma langue française. I speak French. It's got to
speak. Si vous voulez le faire en anglais, on peut le faire en anglais.
Et les gens vont pas être fâchés, les gens, de voir en anglais, moi.
It will be dubbed.
Okay. So many years ago, I was making movies.
Il y a plusieurs années, je faisais des films avec des producteurs comme Avi et Moshe, des films à petit budget. C'était des films de ninja contre tout et n'importe quoi. Karaté contre ninja, ninja contre zombie, vous voyez le genre. Je suis devenu célèbre avec ces films d'arts martiaux. C'était des intrigues simplistes. Mais quand je rencontrais ces producteurs, on parlait de tout, de la vie. De politique, de vin, de peinture. Ces types sont très intelligents. Alors comment peuvent-ils faire des films pareils ? Peut-être parce qu'ils sont du Mossad. Ils m'envoient tourner dans un pays, comme dans le film Argo. Et pendant que je fais mon boulot, eh bien ils font le leur.
They're doing their jobs, right?
C'est quoi ce délire, Romain, c'est Jean-Claude Van Damme qui imagine que ses anciens producteurs, ils étaient du Mossad.
Bah, c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé avec deux producteurs très connus des années 80, qui sont deux cousins israéliens, Menahem Golan et Yoram Globus, les producteurs de la firme Canon, qui bossaient avec Chuck Norris et Charles Bronson, donc il s'est fait son propre film dans sa tête.
Voilà, c'est ça. Et son nouveau producteur, c'est qui alors ?
Ah bah là, c'est différent, c'est Ridley Scott, le réalisateur d'Alien et de Gladiator.
Alors, avec ce double rôle d'acteur et agent secret, Van Damme joue une fois de plus un rôle multiple.
Tout à fait, il avait déjà fait ça avec les frères jumeaux de Double Impact et les clones du film Réplicant. Et en fait, pour lui, c'est une façon de tenter de prouver ses talents d'acteur.
Je suis arrivé aux États-Unis par les arts martiaux, mais j'ai toujours voulu faire du cinéma. J'ai grandi avec des gens comme
Louis de Funès, Belmondo.
Mais Belmondo n'est pas connu aux États-Unis, vous savez. Et mon père m'a dit, si tu peux importer le style Belmondo-Van Damme aux États-Unis, avec de l'action, de la comédie, de l'humour, du burlesque, du clownesque et de l'émotion, alors tu pourras conquérir le cœur des Américains. Et bien sûr, j'ai été catalogué comme star de films d'action, donc j'ai toujours voulu prouver à mon père, à mon public et à moi-même que je peux être un acteur décent.
Voilà, vous venez d'entendre Jean-Claude Van Damme imiter Jean-Paul Belmondo. Et c'est même un triple rôle que va jouer Van Damme, puisqu'il y a aussi Van Johnson.
Il y a Van Johnson, l'agent secret, Van Damme, l'acteur, et surtout Jean-Claude Van Varenberg,
voilà,
puisque c'est son véritable nom.
Ouais.
Jean-Claude Van Varenberg est un type très timide qui se met à transpirer face à vous et a besoin de connaître toutes les personnes présentes. Je suis très émotif et très sensible. Avant, j'avais peur de le dire, mais aujourd'hui, j'ai 56 ans et je suis heureux de le dire, car on peut faire des choses formidables en étant très émotif et très sensible.
Voilà la nouvelle masculinité de Jean-Claude Van Damme. On l'a dit, cette série a été produite par la plateforme Amazon, Romain.
En effet, le site de vente en ligne qui cherche à concurrencer Netflix. Et j'ai donc demandé à Van Damme ce qu'il pensait de ces nouveaux diffuseurs.
Quand j'en ai discuté avec l'un de mes ex-avocats, on parlait de Bloodsport. Il m'a dit, Jean-Claude, si Amazon t'envoie faire la promo de la série au Umjbuk Umba, tu y vas. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec Bloodsport. Oublie Bloodsport. Ce sera sur tous les portables, les télés, les PC et les ordinateurs. Si Bouddha doit revenir, ce sera le meilleur endroit pour lui. Amazon sera sa piste d'atterrissage.
Voilà, donc ce n'est pas le retour de Bouddha, c'est le retour de Jean-Claude Van Damme qui nous a encore inventé un pays, là, le Hunchback Bunda.
Ouais, je ne sais pas où c'est.
Voilà, donc c'est Jean-Claude Van Johnson et c'est à voir sur Amazon.
L'instant M sur France Inter.
Voilà, retour à notre dossier du jour qui est le bilan dévoilé ce matin par Reporters sans frontières. Bilan annuel, Christophe Deloire, vous en êtes le secrétaire général. 65 journalistes tués pour avoir exercé leur mission cette année, c'est-à-dire informer. Finalement, c'est l'année la moins meurtrière de votre comptabilité. Et pourtant, il ne faut pas se méprendre. Ce n'est pas parce que les pays en guerre ou les pays en paix sont moins dangereux, Christophe.
En 15 ans, ça fait 1035 journalistes qui ont été assassinés dans l'exercice de leur fonction ou en raison de leur fonction. Et la plupart d'entre eux n'ont pas trouvé la mort dans des accidents du travail, si vous me permettez l'expression, même si, évidemment, grand reporter en zone de conflit, c'est un métier extrêmement dangereux. La plupart ont été assassinés, visés sciemment, pour qu'ils soient réduits au silence. Aujourd'hui, on se rend compte que les journalistes qui enquêtent sur les grands sujets d'intérêt public, y compris de plus en plus sur des sujets globaux, relatifs à l'environnement, à la corruption, aux atteintes aux droits de l'homme, aux discriminations, sont visés. Sont visés les journalistes d'investigation. Cette année, le nombre de femmes journalistes assassinées a doublé. On est passé de 5 à 10. Il y a eu des cas dans de nombreux pays.
Alors,
il y a eu un cas
tel que... Voilà, on va écouter un extrait d'une archive. C'était au mois de mai, c'était très récent et c'est tout proche de nous. C'est à Malte, c'est-à-dire qu'on est en Europe.
Madame Caruana Galizia était très critique envers moi. Mais rien, ni personne ne peut justifier cet acte barbare.
Ses ennemis étaient nombreux. Qui en voulait à Daphne Caruana Galizia au point de la tuer? Sur Facebook, son fils dénonce.
Un état mafieux dans lequel vous serez pulvérisé en morceaux si vous exercez vos libertés fondamentales.
Voilà, Daphne Caruana Galizia, donc blogueuse, journaliste d'investigation, assassinée à la voiture piégée, qui enquêtait sur la corruption, y compris des proches du Premier ministre de son pays. Il y a beaucoup d'internationaux qui ont demandé à ce qu'une enquête indépendante soit menée au niveau international, Christophe Deloire.
Daphne Caruana Galizia, elle avait plus de lecteurs sur son blog qu'il n'y a d'habitants sur l'île de Malte où elle résidait et où elle a été tuée. C'est une journaliste qui avait une très grande importance. Elle était très connue en Europe parce qu'elle était au centre, au cœur d'enquêtes qui avaient un caractère local, maltais, mais à chaque fois des résonances, comme c'était relatif au réseau de corruption, au trafic, des résonances européennes et mondiales. Elle avait des sources partout, ce qui d'ailleurs complique l'enquête. Et pour dire l'utilité sociale de telle journaliste, un jour a été inaugurée au Parlement européen, après sa mort, une salle à son nom, une salle de presse. Et là, j'ai rencontré des parlementaires européens qui m'ont dit « Voilà une journaliste qui, lorsqu'elle publiait des articles, après, nous rencontrait parfois. » Et certains projets de réforme relatifs à la finance internationale, par exemple, ont été pris grâce aux travaux, grâce aux enquêtes de Daphne Caruana Galizia. Des journalistes qui enquêtent sur de tels sujets sont des journalistes qui, in fine, peuvent parvenir à mettre en marche l'action publique sur des sujets d'intérêt public.
Je vous propose de partir au Mexique, Christophe Deloire.
Au Mexique, des dizaines de journalistes se sont rassemblés mardi soir à Mexico pour rendre hommage à leur collègue Javier Valdés, assassiné la veille. Une manifestation organisée devant le ministère de l'Intérieur comme pour mettre la pression sur les autorités. Les professionnels se sont en effet menacés, notamment par les cartels de drogue. Depuis le début de l'année, 5 journalistes ont été assassinés.
L'impunité
des assassinats de journalistes est une incitation à poursuivre le meurtre de journalistes, déplore cette reporter.
Ce que j'aimerais qu'on comprenne bien dans votre bilan annuel, c'est que parmi les journalistes tués dans l'exercice de leur mission, 26 ont été victimes collatérales de bombardements, d'attentats, etc. 39 ont été assassinés au cours de leurs enquêtes parce que leurs enquêtes dérangeaient. C'est le cas de ce journaliste mexicain. Et le Mexique est aujourd'hui le pays en paix le plus dangereux pour les journalistes. C'est très important de le dire, c'est-à-dire qu'on est autant en danger dans un pays en paix que dans un pays en guerre, Christophe Deloire.
Ce qui se passe au Mexique est absolument sinistre. Des journalistes, et ils ont un courage extraordinaire, dans des États fédérés du Mexique, dans des provinces du Mexique, enquêtent sur la vie politique locale, avec des imbrications extrêmement fortes avec le narcotrafic, sur le narcotrafic lui-même. Et des journalistes tels que Javier Valdés, celui que vous venez de citer, et qui a été tué en pleine rue. Javier Valdés, c'était un journaliste qui avait une réputation forte, et donc même la réputation ne protège plus aujourd'hui, qui enquêtait dans l'état du Sinaloa sur les conflits internes au cartel de Sinaloa après la mort d'El Chapo, et qui a été tué alors même qu'il avait publié de nombreux livres, qu'il était le correspondant de l'AFP depuis des mois. Et au Mexique, ce qui est très impressionnant, c'est de voir que les journalistes, beaucoup de journalistes, vont en exil intérieur à Mexico City, mais que même là, parfois, ils sont pourchassés. Un photographe a été tué il y a 2 ans, Ruben Espinoza. Et donc, on est devant des journalistes qui, lorsqu'ils veulent travailler décemment, finalement, sont obligés de quitter leur pays. Il y a une fuite des journalistes.
Et alors, ce qui peut-être explique aussi être voilà,
un des facteurs d'explication, si je puis dire, négatif de la baisse des chiffres.
C'est-à-dire qu'on meurt moins parce qu'on y va moins. Tout simplement, c'est très important de le dire. C'est-à-dire que la Syrie reste le pays le plus meurtrier pour les journalistes depuis 2012. Finalement, il y a une hémorragie de la presse étrangère et même de la presse locale sur le terrain, Christophe Deloire.
Alors, semble-t-il, il y a un faisceau d'explications.
Oui.
D'abord, le fait que les rédactions ont mis en place, partout dans le monde, des procédures de sécurité, parfois plus de précautions, mettent en œuvre plus d'outils pour la sécurité numérique, pour sécuriser les données, les communications, ce qui est un facteur de sécurité physique. Pour la sécurité physique, il y a beaucoup de rédactions qui ont beaucoup investi. Il y a des coalitions qui se sont créées. Il y a des groupes de travail de mise en commun, de meilleures pratiques. Ça joue. Il y a une plus grande préoccupation internationale, conscience internationale, avec du droit international, mais qui aujourd'hui n'est
mais
pas appliqué.
Et puis,
il y a le fait que les journalistes, dont tant d'entre eux ont un courage extraordinaire, mais au final, certains se disent je risque d'être découpé en morceaux demain, je vais peut-être arrêter mon enquête.
Voilà. Alors, il y a également un bilan des journalistes retenus en prison. 326, le chiffre est énorme. Et encore, le chiffre est difficile à établir puisqu'il y a certains pays où on manque de transparence. La Chine, par exemple. Là aussi, la tendance serait légèrement à la baisse. Et pourtant, dans certains pays, les arrestations se démultiplient. On vient de parler de la Russie en début d'émission. Vous pointez le Maroc cette année, Christophe Deloire.
Le Maroc, c'est un pays où des manifestations ont lieu dans la région du Rif et où 5 journalistes sont en détention, journalistes professionnels et non professionnels, mais des journalistes qui rendaient compte de la situation de ces manifestations et qui ont été placés en détention. Le Maroc, c'est traditionnellement considéré comme un pays, on appelle ça le pays des lignes rouges, puisque c'est un pays dans lequel il y a des tabous, tels que la monarchie, par exemple, ou un certain nombre d'autres sujets qu'il n'est pas question de traiter normalement. Mais là, on voit que le Maroc, qui est pourtant un pays qui utilise beaucoup pour sa communication le fait de travailler sur les questions de liberté de la presse, en réalité, une politique qui est très contradictoire avec la réalité des faits.
Alors, il y a également 54 journalistes retenus en otage dans le monde. Daesh demeure le premier preneur d'otages de cartes de presse.
Oui, le pays dans lequel il y a le plus de journalistes otages retenus aujourd'hui, et ce sont d'abord des journalistes locaux, comme ceux qui sont tués d'ailleurs, c'est la Syrie, avec Daesh. Les principaux preneurs d'otages, au fond, sont des groupes radicaux, Daesh, Al-Qaïda et au Yémen, les Houthis.
Et c'est important la précision que vous venez d'apporter, c'est-à-dire moins il y a de journalistes étrangers qui se risquent sur les terrains extrêmement dangereux, et plus finalement ce sont les journalistes locaux qui sont au front et en première ligne.
Bah, de manière générale, ceux qui subissent les plus grands risques, c'est les journalistes locaux, c'est eux qui sont visés par les belligérants dans les zones de guerre, c'est eux qui sont visés par les autorités publiques dans lesquelles ils sont brimés. Et aujourd'hui, on est quand même dans une situation très inquiétante. Si on regarde les discours, ne serait-ce que les discours publics, on entend beaucoup parler de ceux de Donald Trump, qui n'appelle pas à tuer les journalistes.
Non.
Mais ces insultes, dans d'autres pays, ont des répercussions. Mais si on regarde ce qui se passe en Thaïlande, par exemple, le Premier ministre a dit que les journalistes qui ne suivraient pas les lignes officielles pourraient être tués.
Aux Philippines,
Duterte a dit que journalistes, ça ne protégeait pas des assassinats. Et même dans l'Union européenne, le président tchèque, Miloš Zeman, a fait une conférence de presse cette année, il y a quelques mois, avec une fausse Kalachnikov dans les mains, sur laquelle il était écrit pour les journalistes. Il a dit que c'était une blague, mais quelques jours plus tard, dans les couloirs du Parlement européen, il a rencontré un journaliste, il a dit à ses gardes, virez celui-là, sinon je vais le tuer.
Merci beaucoup Christophe Deloire. Le bilan RSF 2017 au complet avec tableaux chiffrés et analyses est disponible sur votre site ainsi que sur le nôtre.